Bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Dans ce journal, nous reviendrons sur la difficile décision que devra prendre le gouvernement au 15 décembre, lever ou non le confinement, alors que la baisse des contaminations stagne. Retour également sur la fusion annoncée des réseaux d'agences de la Société Générale et du Crédit du Nord, annoncée hier, alors que le secteur bancaire connaît des difficultés. Et puis un peu de musique à la fin de ce journal, avec l'ouverture de la saison de la Scala de Milan à la télévision pour la première fois depuis 2 siècles et demi. Le déconfinement avant Noël n'est plus aussi sûr, c'est ce qui est ressorti de la conférence de presse hier du directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui note que le cap des 5000 contaminations par jour avant le 15 décembre sera difficile à atteindre. Les Français ont pourtant adopté les bons comportements, mais depuis 3 jours, le nombre de Français testés positifs ne descend plus et les températures en baisse ne devraient pas aider au reflux des contaminations. Quelle décision prendre alors le 15 décembre prochain? Le gouvernement se retrouve face à un nouveau dilemme, Yael Gauz.
Ne pas pécher par excès d'optimisme. Cette ligne de conduite sur les vaccins, c'est la même sur le confinement. À l'Élysée, on insiste sur la prudence méthodique du président, sous-entendu que d'autres dirigeants dans le monde n'ont pas eu. Annoncé le 24 novembre, ce déconfinement par palier était conditionné à des objectifs chiffrés. S'ils ne sont pas atteints, on y réfléchit, dit un conseiller. Faut-il être attentif à la tendance ou arc-bouté sur le seuil des 5000? Un Noël confiné, la décision ne serait pas seulement sanitaire, explique un proche de Olivier Véran, c'est sociétal, surtout quand le moral des Français est en berne. Alors, marche arrière toute, comme au Québec. Au ministère des Transports, on n'imagine pas. Au pire, un desserrement plus tardif, la veille des vacances scolaires. Hypothèse aussi d'un couvre-feu plus strict, plus tôt. Les règles seront données jeudi soir. Ce plateau est-il la conséquence du froid? De la réouverture des magasins? Est-il annonciateur d'une 3e vague? L'exécutif manque de recul. Seule certitude, le Parlement devait débattre la semaine prochaine de la politique migratoire du gouvernement. Changement d'ordre du jour, ce sera sur la politique vaccinale, priorité sanitaire donc, et espoir de sortie de crise, mais pas à court terme.
Le Royaume-Uni, de son côté, lance ce matin sa campagne de vaccination contre le Covid, la première dans un pays occidental. La priorité est donnée aux résidents et personnels des maisons de retraite, suivis ensuite par les soignants et les plus de 80 ans. L'Agence européenne du médicament, quant à elle, rendra son avis sur ce vaccin d'ici la fin du mois, tandis que le Canada pourrait commencer dès la semaine prochaine à vacciner sa population. Et puis aux États-Unis, en prise avec une 3e vague, le gouverneur de Californie a réinstauré le confinement dans son État. La mesure concerne 20 millions d'habitants afin d'éviter au système hospitalier californien d'être submergé, a-t-il expliqué. Enfin, le Danemark, confronté à une flambée de cas, lui aussi va fermer collèges, lycées, bars, cafés et restaurants dans 38 communes, dont Copenhague. Une épidémie qui a conduit de nombreuses entreprises à licencier partout dans le monde et le système bancaire n'y échappe pas, même si dans ce secteur, les suppressions d'emplois avaient largement démarré avant la crise sanitaire, à cause notamment des transformations digitales. Voilà qu'hier, la banque Société Générale, qui avait racheté en 1997 le Crédit du Nord, annonce que ces deux réseaux vont fusionner. De 2100 agences fin 2020, le nouveau réseau passera à 1500 fin 2025. La Société Générale refuse de chiffrer pour l'instant le nombre de postes qui seront supprimés. Elle assure qu'aucun départ ne sera contraint, mais les syndicats s'attendent à une catastrophe sociale. Marie Viennot a joint à ce sujet Audrey Blamable, qui dirige un cabinet de conseil spécialisé dans les services financiers.
Est-ce qu'il y aura de la casse? On peut imaginer que forcément il y aura des réductions. Contrairement aux autres pays européens, la France avait, on va dire, un rythme de fermeture de ses réseaux d'agences qui était inférieur à des pays comme le Royaume-Uni, par exemple. Il peut y avoir un risque, notamment parce que aujourd'hui, chaque réseau a son identité. Si on prend l'exemple de Crédit du Nord, Crédit du Nord est fortement ancré sur le marché des entreprises, les PME des régions et également une clientèle des particuliers assez haut de gamme. Quand on travaille justement sur cette idée de rationalisation des réseaux de distribution, notamment du réseau physique d'agence, il faut s'interroger sur ce que souhaitent les clients. On voit en ce moment que les clients entreprises ont besoin d'être accompagnés par les banques du fait de cette crise sanitaire qui a des impacts forts économiquement. On voit que la relation physique prend tout son sens aussi dans ce contexte-là.
C'est l'heure des réquisitions dans le procès des attentats de janvier 2015. Le parquet national antiterroriste va annoncer ce matin les peines demandées pour les 14 accusés jugés devant la cour d'assises spéciale de Paris et décrits comme les chevilles ouvrières des attaques qui ont fait 17 morts, dont une grande partie de la rédaction de Charlie Hebdo. Hier, l'avocate générale a appelé la cour à une réponse ferme et équilibrée. Il n'est pas question de faire payer aux vivants les fautes des morts, mais sans eux, le trio formé par les frères Kouachi et Hamedi Coulibaly n'était rien, a martelé la magistrate, qui a reconnu également des zones d'ombre dans leur dossier. Les plaidoiries de la défense débuteront cet après-midi. Verdict attendu le 16 décembre. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. À Montpellier, la grande mosquée de la Paillade pourrait être rachetée par l'État du Maroc, mais le maire socialiste s'y oppose. Selon Michael Delafosse, en effet, ce projet irait à l'encontre de la loi de 1905 qui sépare l'Église de l'État. Il a donc décidé de faire jouer son droit de préemption. Cet élu local défend la laïcité coûte que coûte. Il est loin d'être isolé au Parti socialiste. Selon le politologue Stéphane Rosès, le PS a en effet clarifié sa position sur ce sujet depuis quelques années. Écoutez-le au micro d'Antoine Marette.
La nouveauté maintenant, c'est que des élus locaux prennent des positions claires quand, dans la dernière période, pour des raisons de clientélisme électoral, les maires socialistes n'aimaient pas trop s'exprimer sur les questions de laïcité ou de danger islamiste.
Au niveau national, au Parti socialiste, il y a eu une évolution par rapport à la laïcité depuis quelques années ?
Je dirais peut-être pas tant évolution que clarification dans un moment politique où ces dernières années, notamment la France insoumise, avait subi le reproche d'une complaisance à l'égard des islamistes, par exemple, en se rendant à une manifestation du CCIF en novembre 2019. À cette manifestation contre l'islamophobie, le Parti socialiste avait, lui, refusé de participer. Par contre, ce qui est clair, c'est que depuis l'assassinat de Samuel Paty, les choses idéologiquement changent à gauche. La France insoumise est en difficulté face aux reproches d'islamo-gauchisme et le Parti socialiste a encore plus clarifié ses positions. Par exemple, les dernières déclarations d'Anne Hidalgo sont révélatrices. Les dernières mises au point d'Olivier Faure également, ou le fait que Jérôme Guedj soit le nouveau secrétaire national à la laïcité. Jérôme Guedj étant connu comme étant un laïc.
Le politologue Stéphane Rosès. C'est une première à Milan. L'ouverture de la saison de la Scala a été lancée à la télévision hier soir. C'est une des soirées les plus prisées d'Italie en temps normal et depuis 250 ans qu'elle existe. Hier soir, pas de paillettes, pas de public, mais un spectacle de près de 3 heures en mondovision et en streaming, Bruce de Galzin.
Fratelli d'Italia.
Émouvant et patriotique, l'hymne italien, entonné d'abord en solo et a cappella. Puis accompagné par l'orchestre de la Scala, séparé par des plexiglas et tous masqués, sauf les instrumentistes aveugles. S'enchaîne ensuite un siècle d'opéra, de Rossini à Puccini, en passant par Verdi et son Rigoletto, interprété par Vittorio Grigolo, surnommé déjà le Pavarottino.
La donna è mobile, qual piuma il vento.
25 airs d'opéra au total, dont le célèbre Carmen de Bizet, chanté par la mezzo-soprano française Marianne Crebassa. Mais la Scala, c'est aussi le ballet. Étonnant, le danseur Roberto Bolle, qui tel un robot seul sur la scène, se joue des lumières et des rayons laser. Mais à chaque fois, le même final, sans un applaudissement, sans non plus de date pour accueillir de nouveau le public.
Bruce de Galzin, un dernier mot sur la mort apprise ce matin de la légende américaine de l'aviation, Chuck Yeager, le premier pilote à avoir franchi le mur du son en 1947. Affecté en Grande-Bretagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, il avait acquis le statut d'as de l'aviation en abattant des dizaines d'avions allemands. Un mot du temps de ce mardi, de la neige en montagne et ailleurs, un temps gris et froid. Une perturbation stagne du sud-ouest au nord-est et ne se décalera que très lentement vers l'est. Sur le sud-est, le temps sera couvert et pluvieux. Sur l'ouest, le temps sera froid également. Les températures minimales comptaient ce matin de moins 2 à 6 degrés du nord au sud. Les maximales varieront cet après-midi entre 3 et 7 degrés du nord au massif central, entre 7 et 11 sur le sud-est.